Jean-Emmanuel Deluxe, et nous allons plonger dans les années 60, les 60s, avec les filles de la pop. C'est aux éditions Maison Cocorico. Alors, les filles de la pop, les plus célèbres, les Sylvie Vartan, Sheila, Françoise Hardy, France Gall. Mais il y en a d'autres aussi dans ce livre, peut-être un peu oubliées ou qui ont eu des succès, de grands succès dans les années 60, mais dont la carrière s'est arrêtée plus rapidement.
Oui. Oui, tout à fait. Il y a par exemple Dani qui, elle, continue, mais il y a eu des périodes où elle est un peu partie des projecteurs, mais qui est revenue. Aussi Annie Philippe, qui est revenue avec une biographie. Et puis d'autres qu'on avait oubliées, mais dont les chansons ont marqué. Par exemple, Gillian Hills, dont le nom a peut-être été oublié, mais qui est revenue par le biais des Américains dans la série Mad Men, où il y a eu une reprise de sa chanson, où d'ailleurs beaucoup de gens pensaient que c'était un original, parce qu'on avait oublié la version des années 60.
Alors c'est vrai qu'on se souvient de ces années 60 avec celles ou ceux qu'on appelait les idoles. Ce sont eux, et ce sont plus exactement elles, qui sont dans ce livre.
Oui, parce que comme dit Lio dans la préface, c'est vrai que sans filles, la pop aurait été beaucoup moins colorée, vivante, que ce soit les fans des groupes qui criaient pendant les concerts des Beatles ou de Johnny Hallyday. Et puis ensuite, évidemment, toutes les chanteuses pop qui ont beaucoup marqué. Parce qu'il faut se rappeler, par exemple, que la première fois que les Beatles sont venus en France, la tête d'affiche était Sylvie Vartan et pas les Beatles. Après, ça a changé, évidemment, mais il y avait vraiment... c'était des icônes. Elles étaient beaucoup suivies aussi pour la mode prescriptrice. C'était toute une nouvelle génération qui découvrait un peu une liberté. Et les jeunes filles, pour la première fois, n'essayaient pas de ressembler à leur mère, mais d'avoir un peu leur propre... identité.
Une forme de révolution culturelle, puisque c'était ces années 60, ont vraiment marqué un nouveau pas dans la société, et notamment chez les femmes qui ont eu une forme d'émancipation extraordinaire.
Oui, en fait, ça préfigure un peu mai 68, les mouvements féministes, parce qu'il y a les débuts de la contraception, on parle plus ouvertement de sexualité, même si au début c'est toujours un peu naïf et bon enfant, mais il y a vraiment et puis c'est les premières fois où des femmes artistes commencent à se... comme Françoise Hardy par exemple, qui écrit ses propres chansons, donc on se dit ah bah oui, une femme peut aussi écrire et interpréter ses chansons, donc il y a même si encore les producteurs sont un peu derrière, les femmes commencent vraiment à s'émanciper, et du coup les jeunes filles qui les suivent dans les magazines et à la radio, à la télévision aussi.
Alors qu'est-ce qui a fait, aussi bien pour les hommes que pour les femmes d'ailleurs, que pour les filles, le fait de cette longévité pour certaines et puis une carrière plus éphémère pour les autres? Est-ce que c'est un concours de circonstances ou est-ce que pour les filles c'était plus difficile parce que la condition de la femme n'était pas forcément d'être une artiste dans l'esprit de l'époque?
Bah oui, notamment si on lit la biographie d'Annie Philippe qui est sortie il y a quelque temps au Cherche Midi, on s'aperçoit que les producteurs derrière, parfois elle, c'était en plus... Elle avait vraiment des producteurs dont certains appartenaient au milieu. Elle l'a su ensuite. Et donc c'était un peu compliqué. Et souvent aussi, on prenait une fille qu'on trouvait jolie et on passait à une autre. Et puis après 68, il y a eu toute une période où on a voulu changer un peu de style. Et c'était très difficile pour certaines de s'accrocher. Alors certaines ont continué, d'autres effectivement n'ont vécu que le temps d'un ou deux 40 ceintures, mais aujourd'hui on les redécouvre. C'est ça qui est étonnant, parce que les Anglo-Saxons sont vraiment fans de ça, les Japonais aussi, il y a plein de compilations, donc ça sort des... Au départ c'était vraiment des frontières francophones, et puis d'un seul coup on s'aperçoit que là il y a des gens dans le monde entier qui trouvent que finalement ces filles françaises, même si elles étaient influencées par les Anglo-Saxons, avaient un style à elles, et un charme français qu'on voit peut-être moins nous parce qu'on est dans le pays, mais que les autres apprécient ailleurs apprécient beaucoup.
Alors certaines effectivement écrivaient leurs textes, mais elles composaient également.
Oui, voilà, Françoise Hardy justement, qui était vraiment une précurseuse en la matière, et qui après a même monté, une fois qu'elle est sortie de chez Vogue, sa propre maison d'édition, son propre label. Et donc, ça c'est aussi une révolution, parce que ça a préfiguré après dans les années 70 les auteuses compositrices comme Véronique Sanson, qui a commencé à la fin des années 60, mais qui elle a vraiment été typique de l'après 70. Mais après dans les années 80 il y a eu un retour, je dirais, que des groupes comme Niagara, ou que ce soit aussi Lio ou Élie et Jacquenot, ont un peu repris les 60s avec une avec une sensibilité plus moderne de leur époque, mais qui est revenue. Puis aujourd'hui, il y a même les Parisiennes qui reviennent, un groupe des 60s. Donc il y a comme un mouvement, un éternel retour.
Alors, est-ce que vous avez eu des surprises, des interrogations lorsque vous avez travaillé sur ce livre en redécouvrant ou peut-être en sortant quelques anecdotes un peu oubliées pour certaines de ces artistes?
Oui, effectivement, parce que y a tout ce qui est l'histoire officielle, mais après on découvre des choses, alors des choses qu'on peut mettre dans le livre et d'autres pas, mais sans rentrer dans une anecdote particulière, on se rend compte quand même que les producteurs, notamment, sans citer le nom de producteurs particulièrement, étaient quand même énormément derrière, et et justement Françoise Hardy d'autant plus remarquable, c'est qu'elle a réussi à couper un peu les fils, la puppet on a string, mais que pour beaucoup d'autres artistes, même le choix du répertoire parfois était un peu imposé par le producteur, et il fallait un peu lutter parfois pour imposer les choses.
Et puis il y a eu aussi, alors il y a eu les mariages, je pense à Sylvie Johnny bien sûr, mais il y a eu aussi des idylles comme France Gall et Claude François.
Et
c'est vrai que pour France Gall, ça a été difficile de s'imposer, s'est imposé, mais face à Claude François, bon, ça a été la rupture entre deux. Mais il y avait une rivalité homme-femme de toute façon pour être en haut de l'affiche.
Oui, surtout Claude François, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il avait une personnalité très très affirmée. Un euphémisme, et je sais que à l'époque il avait très mal vécu le succès à l'Eurovision de France Gall. Oui.
Alors donc ce livre est très illustré, il y a des illustrations un peu inédites ou est-ce que...
Oui, on a essayé vraiment de chercher une iconographie dans toutes les revues de l'époque, les pochettes de disques, donc évidemment il y a les images les plus emblématiques, on a essayé d'être vraiment original, de trouver des choses... Je pense qu'on sort de l'ordinaire et vont être vraiment une découverte pour le lectorat. Oui.
Merci Jean-Emmanuel Deluxe. Donc Les Filles de la Pop, c'est aux éditions Maison Cocorico. Et on dit Cocorico parce que il y a quand même quelques artistes étrangères comme
oui,
France
Gall,
comme
Sandy Shaw
ou Pétula Clark.
Mais qui ont chanté en français. C'était ça l'intérêt. C'était justement des chanteuses étrangères qui. Anglo-saxonnes et d'autres qui ont chanté en français.